Alors, il y a un organisme qui s'appelle ProPublica qui a publié hier, à partir d'informations qui ne sont pas supposées avoir entre les mains, là, mais quand même, les montants payés en taxes par les grands milliardaires, là, on peut penser à Bloomberg, Bezos, puis évidemment Elon Musk, et leur conclusion, c'est que ces gens-là ne payent pas trop d'impôts.
Oui, et il y a une portion d'analyse sur laquelle je veux revenir, c'est l'impôt qu'on paye sur sa croissance de valeur. C'est-à-dire, ils disent, ils ont pris leur impôt personnel, puis ils ont dit, oui, mais leur richesse, leur fortune a grossi de tant de milliards ou de tant de millions. Et si on prend leur impôt personnel divisé par leur croissance de fortune, bien, ça ne donne pas un taux d'imposition qui a du sens. Mais où je veux en venir avec ça, c'est de dire, on ne peut pas commencer dans un système fiscal avec notre perception actuelle d'imposer des placements non vendus. Dis, par exemple, tu achètes une action 100$, en un an, elle monte à 150$, on ne peut pas t'imposer sur le gain de 50$ immédiatement si tu ne vends pas l'action. Pourquoi? Mais parce que si ça arrive, il va falloir que tu trouves des liquidités pour payer l'impôt sur une plus-value non réalisée. Et donc, tu es en train de dire aux riches de ce monde, vous avez des actions de compagnie, si la compagnie prend de la valeur, payer de l'impôt sans avoir vendu l'action. Et donc, ça a mis évidemment un partage sur les réseaux sociaux très élevé, mais qui n'est pas basé sur une logique fiscale. Parce que, imagine, tu as un placement qui prend 30% en 2021. Tu paierais l'impôt là-dessus, mais en janvier, il perdrait de la valeur. Là, il faudrait que tu attendes l'année suivante pour recouvrer ton impôt. Et l'autre point, c'est, si tu as des placements privés dans la vie qui ne sont pas cotés en bourse, là, on donne un exemple ce matin dans la presse, Essence, la compagnie québécoise de vente au détail de luxe sur Internet, mais cette compagnie-là vaut super cher parce qu'on a évalué l'entreprise de façon privée. Mais si tu n'as pas de cote en bourse, tu n'es pas pour évaluer ton entreprise à toutes les années pour t'imposer sur la plus-value alors que tu n'as pas les liquidités.
Mais je comprends ton point de vue. Tu dis, tant que tu ne l'as pas vendu et que tu n'as pas collecté, ben pourquoi tu paierais de l'impôt?
Ben oui.
Bon, ça, je comprends ça.
L'autre point, c'est que ton impôt personnel n'est pas en lien avec ta valeur de fortune. C'est en lien avec ton revenu annuel.
Mais c'est là où ça devient tordu parce que moi, je suis pas un expert comme toi, mais je lisais entre autres hier que ces gens-là vont réussir à se consentir des prêts à faible taux. Il y a des stratégies de comptabilité créative. Quand tu dis qu'un gars comme Bezos est capable d'aller chercher des allocations pour enfants, tu vas me dire, c'est une anecdote, mais ça montre qu'il y a des trous dans le système pareil. Là.
Bien, il y a des choses qui arrivent comme du genre, tu as fait beaucoup de pertes en capital sur des placements une année, hors RR, hors CELI, disons qu'on est au Québec, là. Puis cette année, mais tu as fait un gros gain, ça s'annule, tu payes rien parce que ton rendement d'investisseur est annulé, est à zéro parce que les gains compensent les pertes, parce que tu peux les faire jouer d'une année à l'autre, et ça, c'est bon pour tout le monde. Mais je vais donner un exemple équivalent au Québec. Au Québec, si tu es entrepreneur, puis tu as une compagnie incorporée, si tu ne te verses pas de salaire annuel puis tu décides de vivre sur un prêt ou un CELI, tu vas recevoir de l'aide de l'État. Des allocations, même si tu es multimilliardaire.
Mais tu comprends que c'est pour ça que je te dis que oui. ça devient des incongruités. Là,
qui existent dans tous les systèmes fiscaux. Le problème, c'est que là, on prend des milliardaires.
Mais parce qu'eux peuvent se payer ça.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent un milliardaire, ils regardent sa croissance de fortune, ils prennent son impôt personnel, mais ils ne disent pas nulle part en passant, la compagnie sur laquelle il y a des placements a payé l'impôt corporatif. On ne dit pas que l'année suivante, sur son revenu de PDG, par exemple, il a payé de l'impôt. Mais je comprends qu'il y a disons qu'il n'y a pas une adéquation entre la richesse d'une personne et l'impôt personnel. Pas parce que la personne triche, parce que des fois, il y a des années que ça arrive. Je donne un exemple. Si cette année, je vais mettre 100 000 de REER parce que j'ai un arriérage de 20 ans, ça se peut que je ne paie pas d'impôt. Puis là, les gens vont dire, c'est épouvantable. Quelqu'un a réussi à ne pas payer d'impôts en 2021. Oui, mais il n'avait jamais mis de REER de sa vie. Il les a mis d'un coup. Donc, dans une année, ça a l'air spectaculaire, mais sur une vie, il y aura de l'impôt. Mais bon, je suis d'accord avec toi que ce qu'on a vu dans les années passées, puis là, on parle des années 90, début des années 2000, les affaires de l'île de Man, puis des sociétés écrans, puis des gens riches qui s'arrangeaient pour dire, dans le fond, je vais masquer ma réalité. Ça, c'est pas correct. Mais quand on prend des réalités ponctuelles d'un individu, puis qu'on extrapole sa valeur, disons, corporative, c'est une autre game. Mais bon, ça fait vendre des copies, on s'entend.
Parle-moi donc des retraités. Oui. Tu poses la question ce matin, est-ce qu'ils devraient devenir des créanciers prioritaires?
Oui, parce qu'on parle du code Sears, puis d'un projet de loi qui dit au Canada, est-ce que les retraités qui sont dans un régime à prestations déterminées, c'est-à-dire avec une rente garantie, mais que l'entreprise fait faillite, puis que le régime n'y avait pas assez d'argent pour payer la retraite, est-ce que ces retraités-là devraient passer avant les banques? D'un point de vue de base, on est tous d'accord de dire l'employé a passé sa vie à contribuer à l'entreprise, n'a pas été payé immédiatement, on y avait promis une portion en rente de retraite. Et donc, il devrait, dans un point de vue moral, être le premier créancier. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, dans la pratique, ce qui va arriver, c'est que si les institutions financières se font dire « Vous n'êtes pas créancier prioritaire, vous tombez après le déficit actuariel », les entreprises qui proposent un régime à prestations déterminées à leurs employés et qui ont un déficit actuariel se verront dire par les banques « Vous allez coûter plus cher en financement » ou « On ne veut pas vous financer telle partie » et là, il y aura une augmentation du coût de financement et une moins grande capacité de l'entreprise à être concurrentielle. Et donc, le gain court terme pourrait être pénalisé à long terme. Et c'est un autre argument pour dire, est-ce qu'une entreprise privée va continuer à offrir un régime à prestations déterminées?
C'est la question que j'allais te poser. Il me semble que ça se fait de moins en moins.
Ça se fait de moins en moins, et plus c'est compliqué, plus il y a de risques, moins il y en aura. Mais ça dit aussi aux employés, la rémunération globale, le régime de retraite, c'est important de s'en occuper. S'il y a un déficit actuariel dans votre entreprise, c'est une priorité parce que le jour où elle disparaîtra, une partie de votre régime va aussi disparaître.
Merci, Pierre-Yves. Salut. 7h24.